accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui le troisième et dernier volet de nos reportages consacrés au scandale de pédophilie dans l'Église catholique française. Des scandales qui ont éclaté ces derniers mois. Des centres d'écoute pour les victimes apparaissent dans certains diocèses et une cellule de veille a été mise en place au niveau national. Mais pour beaucoup, ces mesures restent insuffisantes au regard de ce qui se fait en Europe du Nord. En Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Allemagne, les scandales de pédophilie ont éclaté il y a plusieurs années déjà. Des expériences qui peuvent aider l'Église de France. Voici le reportage de Mathieu Péris et Daphné Gastaldi.
S'inspirer des voisins européens dans la lutte contre la pédophilie, voilà ce que propose ce prêtre français qui a beaucoup travaillé sur la question. Il préfère rester anonyme, mais il suit de très près les mesures prises en Europe depuis des années.
Ceux qui ont fait quelque chose de bien, c'est les Suisses, les Allemands, les Belges, les Irlandais finalement contraints et forcés. C'est les trois mesures essentielles. L'ouverture des archives, la commission nationale indépendante et l'indemnisation des victimes. À mon avis, ces trois mesures-là, c'est la façon pour rassurer les gens, tout le monde, et pour établir la tranquillité.
De l'autre côté de la frontière, en Suisse romande, les premiers scandales ont éclaté il y a 15 ans déjà. Jacques Niofer est le président d'un groupe de soutien aux victimes. Il a œuvré pour la création de la CECAR, la commission d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation. Un centre calqué sur le modèle belge, en lien étroit avec les institutions politiques.
En Belgique, les parlementaires ont amené l'Église à créer ce centre. Nous avons fait appel aussi à des parlementaires pour nous aider à chercher une solution qui puisse être adaptée à la Suisse romande. Le premier point pour que l'Église fasse une véritable, indispensable réparation institutionnelle, c'est justement un travail de mémoire, de comprendre ce que s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir. Mais il faut aussi réparer. Pour moi, l'indemnisation, qui restera toujours modeste par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada, elle symbolise simplement la reconnaissance de l'Église de sa responsabilité morale.
Si la question des indemnités financières est quasiment absente en France, chez nos voisins, elle est au cœur des débats, comme en Belgique où plus d'un millier de victimes se sont manifestées en 5 ans, obligeant l'Église à verser près de 4 millions d'euros. Des réparations encore insuffisantes d'après la lanceuse d'alerte Liv Alsberg.
En Belgique, on n'a pas obtenu la justice. L'Église a indemnisé, soi-disant, plus de 1000 victimes. Pour une moyenne d'à peine 3700 euros par personne, ce qui est vraiment totalement scandaleux parce qu'on parle de vies détruites et ce chiffre est incomparable aux montants qui ont été payés par l'Église aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais même avec ces chiffres-là, et le Parlement et l'Église belge arrivent à se vanter, mais... C'est une honte pour la Belgique.
Aux Pays-Bas aussi, près de 2000 victimes ont été recensées et indemnisées sans prendre en compte la prescription des faits. Le théologien néerlandais Endro Munsterman vit aujourd'hui en France où il observe des blocages encore importants sur ce sujet.
Voilà, ici j'ai un article que j'ai écrit pour Témoignages chrétiens en 2012 où je suis revenu sur la révélation des énormes quantités d'affaires pédophiles dans l'Église catholique aux Pays-Bas qui ont donné lieu à un rapport de 1259 pages fait par une commission indépendante. Ce qui est frappant quand on compare la situation néerlandaise et la situation française, c'est que les cas qui ont apparu aux Pays-Bas sont d'abord et avant tout les cas anciens, depuis les années 50. Ce sont ces affaires-là qui, à partir de 2006 à peu près, commencent à sortir en masse. On parle de plusieurs milliers de victimes. En France, la situation est un petit peu différente. Les affaires qui sortent sont des affaires plus récentes pour le moment. Ce qui me fait dire qu'il y a peut-être énormément d'affaires encore qui ne sont pas encore sorties et qui ne sortiront peut-être jamais.
Pour ce théologien, le processus pourrait durer une dizaine d'années en France, maintenant que la loi du silence sur la pédophilie dans l'Église est rompue. À présent, les regards se tournent vers d'autres pays latins très en retard sur ces questions. En Espagne, au Portugal ou en Italie, ce travail de vérité se fait toujours attendre.
L'Église européenne dans la tourmente pédophile, près de 15 ans après l'Église américaine.
Vous croyez que votre journal a l'air assez solide pour s'y attaquer? Oui, je le crois. Et vous?
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait.
n'a jamais mobilisé.
Un extrait de Spotlight, Oscar du meilleur film en 2016, qui met à l'écran l'enquête des journalistes du Boston Globe. En 2002, ce journal a révélé l'ampleur des scandales de pédophilie aux États-Unis. Walter Robinson est l'un des journalistes qui a révélé l'affaire. Daphné Gastaldi l'a rencontré. Il compare l'omerta dans l'Église en Europe et aux États-Unis.
When the story broke in 2002,
quand l'affaire a éclaté en 2002, les gens ont cru qu'il y avait quelque chose à Boston qui faisait que les prêtres abusaient des enfants. Et nous, on disait, non, non, ça se passe partout. Dans beaucoup de pays, l'État et l'Église sont très proches, surtout en Amérique latine. Et donc, peu de choses sortent.
And so, very little became public, and now that's changed.
Mais maintenant les choses changent. Lorsque je suis allé à Rome cette année, les journalistes italiens étaient très contents du film Spotlight, car cela leur a permis d'écrire sur ce sujet. C'est difficile d'écrire de façon critique sur le Vatican et l'Église catholique. Je pense que c'est pareil en Espagne ou au Portugal.
And the same is true, I think, very much in Portugal and in Spain. Less of a problem in Northern Europe.
C'est moins un problème en Europe du Nord. L'Église doit guérir de ce cancer ou alors elle n'aura plus de crédibilité dans aucun pays.
Walter Robinson du Boston Globe. Tous ces témoignages et reportages de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris du collectif We Report sont à retrouver sur notre page Accent d'Europe.
Filmavoy through the darkness. Guided by a beating heart, I can tell where the journey will end, but I know where to start.
Les Russes élisent leurs députés ce dimanche. Le scrutin désignera les 450 députés de la Douma d'État et certains gouverneurs régionaux. Les élections initialement devaient se tenir en décembre. Elles ont été avancées à septembre par le pouvoir. La campagne a eu lieu de fait pendant l'été, une campagne atone. La plus apathique depuis 10 ans, selon le comité d'initiative civile et le mouvement Golos, l'ONG de défense des droits des électeurs dissoute fin juillet. Le parti de la majorité, Russie Unie, devrait sans surprise être en tête des suffrages, malgré la crise économique qui affecte la vie des Russes. À Toula et Moscou, le reportage d'Étienne Bouche.
Cet après-midi, orchestre et majorette animent la place centrale de Toula, à 200 km au sud de Moscou. La capitale de l'armement et du pain d'épices fête son 870e anniversaire. Les élections législatives se tiennent dans quelques jours et la campagne semble inexistante. Il y a bien quelques affiches sur la longue avenue de l'Armée rouge, mais la population ne se passionne pas pour ses candidats. Victor et sa femme Irina, eux, ont l'intention d'aller voter dimanche.
Nous, on est né en URSS. On a vu beaucoup de changements. Je ne suis peut-être pas entièrement satisfait par notre gouvernement actuel, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu mieux. Je vois ce qu'a fait Poutine ces dernières années, comment il a redressé notre pays, notre armée. Peu importe les sanctions, désormais, on tient compte de nous. Les sanctions ne nous font pas peur, elles ne changent pas grand-chose à nos vies.
L'opinion de Victor reflète assez bien l'état d'esprit général en Russie. Malgré la crise, le pouvoir en place continue d'incarner cette stabilité qui a fait la popularité de Vladimir Poutine. Le parti de la majorité, Russie Unie, a toutefois du plomb dans l'aile. Les sondages d'opinion ne sont pas bons. Un mécontentement qui n'atteint pas le président lui-même. Le consensus sur la Crimée explique en partie cet état de grâce. Dans le pays, les conséquences de la crise sont visibles. Le pouvoir d'achat a chuté et la presse indépendante rapporte régulièrement des cas d'impayés et de retard de salaire en région. Pas de quoi remettre en cause la domination de Russie Unie, selon Tatiana Kastouyeva-Jean, responsable du Centre Russie, nouveau État indépendant de l'Institut français des relations internationales.
La situation économique se dégrade très lentement et pas d'une manière qui pousserait la population à sortir dans les rues. Il y a depuis l'année dernière des manifestations, soit au niveau régional, soit qui concerne certains secteurs professionnels, les agriculteurs, les retraités, les camionneurs. Mais tout ça, ça n'a absolument pas l'ampleur d'influencer les résultats du vote.
Retour dans la capitale. Dans le quartier de l'université, Constantin Jankauskas se tient sur une petite estrade à la sortie du métro. Malgré le bruit épouvantable du générateur électrique, une trentaine d'habitants du quartier l'écoutent. Constantin Jankauskas est candidat dans ce district de 500 000 habitants. Il est indépendant, enregistré sous la bannière du Parti libéral Parnasse. Dans ses échanges avec l'auditoire, le trentenaire doit constamment passer du coq à l'âne, mais il y met du cœur. Il appelle aux urnes avec insistance ses interlocuteurs.
Peu importe que vous souteniez ma candidature ou celle d'un autre, si vous vous déplacez et que vous ne votez pas pour Russie Unie, les chances des autres candidats augmentent. Russie Unie l'emporte uniquement grâce à l'abstention.
Qualité des logements, commerce de proximité, Constantin veut faire la différence en mettant en avant sa connaissance du terrain. Et il ne perd pas une occasion d'étriller la majorité. Après son intervention, il distribue des cartes de visite. Mikhaïl est un jeune père de famille. Il repart chez lui convaincu.
Donner sa voix à quelqu'un de nouveau qui pourrait s'opposer au vote d'un texte à la Douma. Cela me paraît plus intéressant que de laisser une majorité à Russie Unie. J'ai écouté un peu les autres candidats, mais ils tiennent tous le même discours. Ils votent des lois qu'ils veulent maintenant supprimer. C'est ridicule. Pour mon quartier, je vais voter sans hésiter pour Constantine.
Mais pour les candidats comme Constantin Jankauskas, les règles sont un peu plus compliquées que pour les autres. Quand ils ne sont pas empêchés de participer, les partis d'opposition sont ignorés par les grands médias. Les partis assurés d'être représentés à la Douma sont des opposants peu contrariants. Le système politique russe laisse peu de place à l'imprévu. Susanna Pchizova, politologue et professeure à l'université Lomonosov.
On a affaire à une vraie mise en scène de toute la scène politique. Les décisions tombent d'en haut. Combien doit-il y avoir de partis? Combien peuvent être enregistrés pour les élections? Quelle sera la future répartition à la Douma? Cette stratégie prend en compte Russie Unie et les autres partis intégrés qui, ensemble, créent un équilibre des forces sur tout le champ politique. Cette stratégie détermine aussi les relations du système avec les véritables partis d'opposition qui n'acceptent pas les règles du jeu.
Le Kremlin tient toutefois à donner une légitimité à ce scrutin. Pour cela, il a nommé une personnalité respectée à la tête de la commission électorale, Ella Panfilova. Le pouvoir en place garde un mauvais souvenir des législatives de 2011, quand des manifestations inédites avaient contesté le scrutin pendant plusieurs semaines.
Au Royaume-Uni, les féministes sont exaspérées par la façon dont certains médias s'intéressent à Theresa May, nouveau chef du gouvernement. Ils se focaliseraient plus sur ses tenues vestimentaires que sur ses idées. Des tenues vestimentaires auxquelles ces mêmes féministes trouvent également à redire, notamment ses chaussures trop haut-perchées, Marie Billon.
La chef du gouvernement aime les chaussures léopard. On l'a vu en porter plusieurs paires différentes. Elle la joue parfois plus classique avec des escarpins noirs, mais toutes ces paires, ou presque, ont un point commun. Elles ont des talons hauts. Theresa May, la seconde femme première ministre du pays, se soumettrait ainsi volontairement à un diktat macho, imposant aux femmes d'allonger leurs jambes et de sacrifier le confort de leurs petons pour plaire à ces messieurs. C'est en tout cas ce que lui reproche Penny Robinson, une déléguée syndicale. Theresa May devrait montrer l'exemple en choisissant des talons plats et des chaussures confortables lors des réunions ministérielles, des questions au gouvernement ou lors des rencontres avec les chefs d'État, a-t-elle dit, qu'elle prouve qu'on peut être la femme la plus puissante du pays et se chausser confortablement. En fait, au Royaume-Uni, un patron a le droit d'imposer un code vestimentaire à ses employés, il peut donc exiger des femmes qu'elles portent des talons hauts. Il y a quelques mois, l'histoire de cette jeune réceptionniste, Nicola Thorpe, qui a été renvoyée chez elle à cause de ses chaussures plates, a suscité beaucoup d'émoi. Elle a depuis mis en ligne une pétition pour demander que la loi soit changée et elle a recueilli plus de 145 000 signatures. Mais la jeune femme n'est pas d'accord avec la syndicaliste. Theresa May doit avoir le droit de porter des talons hauts si elle le souhaite. L'important, c'est le libre choix. D'ailleurs, on a déjà vu la première ministre porter des chaussures plates. Beaucoup, là encore, sont d'ailleurs à motif léopard.
Will you hear my next record? Oh, maybe the critics won't like it.
Come on, everybody. Hey, hey. Come on, everybody. Everybody.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
On reste au Royaume-Uni avec des seniors de la scène musicale.
C'est décidément la saison du retour des vétérans de la pop britannique. Après The Divine Comedy la semaine dernière, c'est aujourd'hui au tour des Écossais de Teenage Fan Club de publier un nouvel album, le 10e, en un peu plus de 25 ans d'activité. Le groupe s'est formé à la toute fin des années 80, du côté de Glasgow, et il est depuis resté fidèle à son amour des guitares et des harmonies vocales héritées des grandes heures de la pop des années 60. Une autre chose n'a jamais changé non plus chez Teenage Fan Club, c'est un fonctionnement très démocratique entre Norman Blake, Raymond McGinley et Gerard Love qui se partagent équitablement l'écriture et le chant sur chacun des albums du groupe. Le tout neuf Here ne fait pas exception, je vous en propose un extrait aux teintes légèrement soul, The First Sight.
Extrait du dernier album de Teenage Fan Club pour clore cette semaine d'Accent d'Europe. Émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. Rendez-vous lundi dès 17h40 en universel.